Alors, bien le bonjour à chacun. Hier soir, à l'Assemblée générale, notre frère Alexandre nous a partagé Ésaïe 43, de 18 à 21. Et coïncidence, mais non, ce n'était pas une coïncidence, j'avais décidé aussi de partager Ésaïe 43, verset 21, qui nous dit « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges ». Et 1 Pierre 2, 9 nous dit « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » C'est une preuve qu'on est formé par Dieu. Déjà, le verset nous l'a rappelé, que Dieu nous forme pour publier ses louanges, mais ce matin, nous publions ses louanges. Et c'est une preuve que nous sommes formés par Dieu. Ce n'est pas les louanges d'un homme, les louanges d'une église, d'un mouvement, que sais-je, mais de Dieu. Si on ne loue pas, c'est que l'on n'est pas formé par Dieu. Comment être mieux formé pour mieux adorer, mieux servir, etc., etc. La vraie louange, c'est celle qui sort du cœur, sans être poussée par une pression extérieure. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas les circonstances, comme on l'a rappelé tout à l'heure, mais ça vient du cœur. Et si on loue seulement le dimanche, et qu'il n'y a rien qui nous motive la semaine, on peut en conclure que c'est une habitude. Mais si nous louons tous les jours, c'est que Dieu nous a vraiment formés. Et maintenant, on va partager 5 points que Dieu nous forme. On va lire pour cela le chapitre 9 de Luc, versets 12 à 17. Luc 9, 12 à 17. Très connu. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent: Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi et les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils le distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Elle en emporta 12 paniers des morceaux qui restaient. Avec la tombée du jour, comme on voit, les 12 disciples commencèrent à s'agiter. Est-ce qu'on ne ferait pas la même chose dans cette situation? Il y avait là tant de gens à nourrir. C'était humainement une situation impossible. Ils demandèrent donc au Seigneur de renvoyer la foule. Quel reflet de nos propres cœurs. Quand il s'agit de nous-mêmes, on est prompt à dire comme Pierre, « Ordonne que je vienne vers toi, Seigneur. » Mais lorsqu'il s'agit des autres, nous sommes plus enclins à lui recommander, renvoie-les. Comment Jésus a fait ce miracle extraordinaire de nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Certains commentateurs disent qu'il y avait à peu près 15 000 personnes. C'est beaucoup, avec 5 pains, 2 poissons. Dans le verset 16, il y a l'acte de prendre les pains et les poissons. On va en tirer 5 leçons, 5 partages, comme quoi le Seigneur nous forme. Jésus veut aussi nous prendre et nous utiliser. Ce qui était devant lui, pour une si grande foule, c'était dérisoire. Mais peu dans les mains de Jésus, c'est beaucoup. Peu dans ses mains, c'est beaucoup. Premier point, il prit les 5 pains. Et il nous prend, nous aussi, avec le peu que nous avons. C'est encourageant. Beaucoup attendent d'avoir des choses extraordinaires pour servir Dieu. Et ils attendent longtemps. Mais le Seigneur nous dit, je te prends tel que tu es. Avec le peu de talent, de capacité, de don. Mais nous devons nous mettre entièrement à son service. C'est un acte de consécration. Nous disons qu'on n'est pas grand-chose, on vaut rien, mais ce pas grand-chose, nous ne le mettons pas au service du Seigneur, nous ne lui donnons pas. Dieu ne nous reproche pas d'avoir peu, mais ce qu'il nous reproche, c'est de ne pas lui donner ce peu. Ce n'est pas la même chose. C'est seulement quand les pains et les poissons ont changé de main, donc de propriétaire, que le miracle a eu lieu. Il y a trois points qu'on va partager. On doit veiller à se consacrer à Dieu. Le premier point, c'est notre faiblesse. Romains 6, 19 nous dit « Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. » De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. Chacun, avant sa conversion, avait ses faiblesses. Certains, à les entendre, on dirait que c'était des anges avant leur conversion. On connaît chacun nos faiblesses. Au début, on combat contre ses faiblesses. Mais à la longue, on tolère de plus en plus nos propres faiblesses. Parce que c'est un combat et le combat, c'est usant. C'est jamais facile, la bataille, la guerre. Pourquoi ? Parce que souvent, on le fait tout seul. Je vais vous raconter une petite histoire pour illustrer ça. Il y avait un immense arbre, je ne sais pas lequel c'était, qui se dressait majestueusement depuis une centaine d'années. Il était le seul qui avait résisté aux tempêtes. Les vents, les pluies, la neige, rien ne pouvait le détruire. Un matin, sans crier gare, l'arbre était à terre. Et à la racine du tronc se trouvait un tout petit insecte qui, pendant des années, avait rongé les racines. Sans bruit, sans que personne ne puisse le voir. Et le jour où les racines étaient les plus faibles, l'arbre est tombé sans l'apport d'une force extérieure. Il est tombé tout seul. Pour nous, c'est la même chose. Si nous tolérons la moindre chose dans notre vie ou dans le secret de notre cœur, remarquez que l'ennemi est souvent à l'intérieur et non à l'extérieur, hein, ce sera un jour la chute. On ne pratique pas souvent de grands péchés quand on dit « Oh, mais moi, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, c'est tout petit. » Mais ce sont les petites choses qui nous minent. Et cela prend des années, des fois, avant qu'on s'en aperçoive, que l'épreuve vienne, que la chute vienne. Parce qu'on ne lui donne pas tout. Si on ne tue pas le péché, c'est le péché qui nous tuera. Deuxième point, c'est veiller sur nos amis. 1 Corinthiens 15, 33 nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elles ruinent toute morale et dégradent le caractère le plus résolu. » Paul fait référence ici au faux docteur qui s'était introduit dans l'église de Corinthe, qui niait la résurrection. Les chrétiens doivent savoir qu'il est impossible d'être associé avec des gens pervers ou des doctrines mauvaises sans être corrompu par eux ou par elles. Un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Mais nous, on se dit, oh non, c'est qu'un petit truc, c'est rien du tout. Non, 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 c'est jamais rien. Une mauvaise doctrine a immanquablement des effets pernicieux sur notre manière de vivre. De mauvais enseignements ne peuvent conduire à la sainteté. On se consacre au Seigneur, mais on ne fait pas attention à ses amis. Certains amis nous tirent en bas. Certains nous détruisent, ils détruisent notre foi, injectent dans notre esprit l'impureté. L'incrédulité, elle s'en maintient avec un contact étroit pendant des années. Il n'est plus possible de grandir. Nos amis nous éloignent ou nous rapprochent de Dieu. Mais des amis doivent toujours nous encourager et être une source de renouvellement pour chacun de nous. Troisième point, les discussions. Ces 2 Timothée 2:23 repoussent les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Refuse de t'adonner à des recherches, des spéculations absurdes et sans fondement. Fermez son esprit aux controverses. Tu sais qu'elles dégénèrent facilement en querelles et n'engendrent que des contestations et mésententes. C'est 2 Timothée 2:23. Ce qui enlève l'onction le plus vite, ce sont les discussions folles et inutiles qu'on peut avoir. On veut essayer de prouver quelque chose. Et plus on essaye de prouver, plus on blague, moins on y arrive. Parce qu'on veut toujours avoir raison. Malheureusement, beaucoup de chrétiens papotent du matin au soir pour rien du tout. Et puis après, ils se plaignent que Dieu ne les utilise pas. On ne peut pas faire tout ce que les autres font. Ce n'est pas possible. N'oublions pas que si un athlète veut remporter le prix, il ne peut pas vivre comme un autre homme, comme une autre personne. Il ne mange pas comme les autres. Il a une vision différente, etc. Il se prive. Il maltraite des fois son corps. Des fois, c'est un petit peu exagéré. Bon, mais il passera même pour un fou. Mais pour les chrétiens, c'est la même chose. Si on veut que Dieu nous utilise, nous ne pouvons pas faire tout ce que les autres font. Ce n'est pas possible. Donc, repoussons ces discussions qui étouffent le Saint-Esprit. Dieu nous prend et c'est un acte progressif. Chaque fois que le Saint-Esprit nous montre quelque chose, on doit obéir. Et c'est là que le bât blesse. On sait ce qu'on doit faire, mais on est des révoltés. Puis l'ennemi vient derrière. Est-ce que Dieu a vraiment dit « Ah ben non, ce n'est pas sûr ». Ouais, c'est vrai. Puis on discute, et puis voilà, on est à côté de la plaque. Il faut qu'on se consacre encore davantage. Moi le premier, hein, bien entendu, je me parle à moi d'abord. Et notre vie sera entre ses mains. Et là, il y a la bénédiction. Rappelons-nous qu'il nous prend tel qu'on est. On dit, c'est merveilleux, Seigneur, on peut s'approcher de toi tel qu'on est. Mais il faut se donner tel qu'on est, pour qu'il nous transforme, lui, à son image. Veillons ces toutes petites choses qui détruisent la vie de beaucoup d'entre nous. Remarquons qu'il aurait pu se passer des 5 et des 2 poissons, hein. Le Seigneur, il n'avait pas besoin de ça. Mais dans sa grâce, il prend le peu que nous mettons à sa disposition et sait en faire une grande abondance. Sa puissance s'accomplit toujours dans la faiblesse de ses serviteurs, jamais dans la force, toujours dans la faiblesse. Deuxième point, il les bénit. Premier point, il a pris avec le peu qu'il y avait. Et le deuxième point, il bénit. Bénédiction, c'est appeler la protection de Dieu. Sûr, combler de biens, de faveurs, faire prospérer. Voilà ce que le dictionnaire dit sur bénédiction. Dieu bénit toujours ce qu'on lui donne, toujours. Si nous lui donnons peu, c'est clair qu'il bénira peu. Et vice-versa, si on lui donne beaucoup, il bénira beaucoup. Si nous donnons tout, il nous bénira totalement. Mais souvent, on garde quelque chose pour nous. On se dit, des fois, il y a une disette, ben on garde. On a parlé hier soir des comptes, hein. On garde. Il ne se passe rien. Mais pourquoi? Parce qu'on ne met pas nos vies sur l'autel. Vous voyez, quand il y a l'autel pour les sacrifices, hein, il y a des marches à monter. Il faut monter, il faut s'investir pour aller apporter l'offrande. Ben là, pour nous, c'est la même chose. Il faut qu'on marche, il faut qu'on monte, il faut qu'on s'investisse. Mais quand on est béni, il y a toujours 2 dangers auxquels il faut le faire face. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il est toujours derrière. Chaque fois qu'on a une victoire, pouf, il y a quelque chose derrière. Et quand on est béni, il y a 2 dangers. On doit faire face. Le premier, il nous bénit toujours pour glorifier son nom. Toujours. et il faut y veiller. Si nous ne glorifions pas son nom, tôt ou tard, l'onction de Dieu disparaîtra et nous serons privés de sa force. Je n'ai pas dit de sa présence, j'ai dit de sa force. Deuxième point, il nous bénit pour en faire profiter les autres. On garde souvent tout pour nous. Comme quand on dit, le soleil n'est pas beau. Ah, moi j'en ai dans ma poche, mais j'ouvre juste la poche pour moi. Et il nous bénit pour faire profiter les autres. Si on a compris ça, il nous bénira et sa bénédiction restera en nous. Troisième point. Vous supportez encore le dernier point? Oui, parce que ça file hein, les heures, c'est vrai. Ah, je bois une goutte pendant ce temps, ça fera un peu plus long. Troisième point, il rompit les pains et les poissons. Il les brise, c'est-à-dire qu'il ne leur donne pas en entier, sinon ils étoufferaient. Pardon. Notre témoignage, si vous regardez bien, ça étouffe souvent les gens. On veut témoigner, on veut forcer, on voudrait apporter plus. C'est d'une bonne intention que ça part, mais on leur fait une indigestion souvent. Et souvent, ça étouffe les gens. Et on est tellement grand, on se croit tellement supérieur à nos propres yeux que lorsqu'on témoigne, on juge les autres. C'est très souvent ça. Ah, tu vois, il faut, mais il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Le Seigneur ne nous a jamais dit ça. Il nous accepte tel qu'on est. Il ne nous a pas dit, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Viens tel que tu es. Reconnais ton état. Mais nous, on voudrait imposer aux autres. Ah, mais tu sais, si tu deviens chrétien, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais il ne faut surtout pas faire ça. Mais c'est du jugement. Puis on voudrait que les gens viennent au Seigneur, puis on les juge d'abord, au lieu de leur parler de Jésus-Christ qui les accepte tel qu'il est. Tel qu'il est la personne, tel que ces personnes sont. C'est pour ça qu'il nous faut à chacun, il y en a qui diront, non, moi je ne suis pas concerné, que le Seigneur brise notre orgueil, notre supériorité. Et le brisement va révéler l'état de nos cœurs. Dieu permet qu'on ait des échecs pour que nous apprenions qui nous sommes, parce qu'on se croit arrivé. On a besoin d'échecs. Je sais, ce n'est pas évident les échecs, mais c'est nécessaire pour qu'on remarque toujours que c'est lui qui permet. Et si nous, on se met en avant, c'est l'échec. Le brisement révèle la noirceur de notre cœur, parce que la parole nous le dit. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il ne s'adresse pas aux gens du monde, il s'adresse à nous, les enfants de Dieu. Qui n'a pas de la noirceur dans son cœur? Qui n'a pas de la rancœur dans le cœur? Tout de suite, on monte sur nos grands chevaux. Mais le brisement révèle aussi la beauté du cœur du Seigneur, pas du nôtre. Et justement, on apprend que l'on n'est rien du tout sans Christ. Comme Pierre qui voulait aller jusqu'au bout, suivre Jésus, on connaît la suite. Parce qu'il n'a pas regardé au Seigneur, mais il a regardé aux difficultés, au vent, à la tempête. C'est ce qu'on fait. Jean 21,15 nous dit, Jésus dit à Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais c'est plutôt Pierre qui aurait dû demander cela, Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Quatrième point, il donna le pain, les pains, les poissons aux disciples. Il nous a envoyés. C'est ça? On peut partir avec quelque chose dans le cœur et les mains. Mais là, il y avait du pain et du poisson. Le pain, c'est Jésus. Jean 6, 33 nous dit, « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Il définit ici les caractéristiques du vrai pain. 1. Le pain, le vrai pain, vient du ciel. 2. Ce pain fournit la vie à l'âme. Et il soutient l'âme. Ce n'est pas le pain qui soutient le corps. Oui, on a besoin de ce pain-là aussi, mais d'abord, c'est spirituel. 3. Il est pour le monde, et pas seulement pour une race, mais c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les petits Suisses aux bras noueux, c'est pour tout le monde. Les poissons, ce sont les âmes. Il nous envoie avec une passion pour lui d'abord et pour les âmes. Comme ça, les gens seront rassasiés. Mais si on n'a pas une passion pour Christ, on ne peut pas aller vers les âmes. Ce n'est pas possible. C'est triste d'annoncer l'Évangile avec un cœur froid ou plein de haine envers les frères. Ça arrive, parce qu'on n'a pas pardonné. Les services sans compassion détruits. Pensons-y. Cinquième et dernier point, ouf. Luc 6, 38 nous dit « Donnez, et il vous sera donné. » Voilà la récompense que Dieu donne à ceux qui sont formés à son école. On l'a lu au début, qu'il nous a formés pour le louer et après pour bénir les autres, pour aller, pour partager. Il y a une plénitude de satisfaction chacun de nous si on va. On sait que ce qu'il nous a donné, on peut le distribuer après. Comment est-ce qu'on peut rassasier les autres en étant d'abord rassasié soi-même? Autrement, on ne peut pas. Comment témoigner du Seigneur ce qu'il a fait si on n'a pas rencontré nous-mêmes le Seigneur? Comment parler de lui? Comment parler de ce qu'il a fait dans notre vie? Oh, il a encore beaucoup de boulot, hein? Ça c'est vrai, mais ça ne fait rien. Ce qu'il a fait au départ, ça a été fait. Et on sait que l'œuvre qu'il commence à chacun de nous, il va la poursuivre et il l'achèvera par son retour. Alors on attend son retour pour être semblable à lui. On a chanté « Voir vers Jésus, lève les yeux », tu nous l'as rappelé. N'essayez jamais de partir en mission ou quoi que ce soit si votre cœur n'est pas dans la paix, dans le rassasiement. Autrement, on ne pourra pas porter aux autres. Et les disciples se sont aussi régalés. Ce n'est pas seulement la foule. Les disciples aussi, ils ont participé, ils ont mangé. Voilà la récompense que Dieu donne à ceux qu'il forme. Parce qu'il ne nous forme pas seulement, mais il nous bénit en plus. Faisons un festin avec Dieu. Ensuite, allons partager avec les autres. Le fruit de la formation, c'est un rassasiement de joie. En Christ, nous ne sommes ni rationnés, ni limités. Donc, pour résumer, je vous résume les cinq points qu'on a partagés brièvement, parce que je vois que ça tourne. Hein. Où j'avais dit 20 minutes, j'ai fait une demi-heure. Il prend les cinq pains et les deux poissons. Il nous prend avec le peu qu'on a, rappelons-nous. Le peu qu'on a, mais donne-le en lui. Il bénit. Il rend. Ça, on n'aime pas en parler, mais il le fait. C'est nécessaire. Il donne aux disciples, c'est-à-dire il nous envoie, et puis après tout le monde est rassasié. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.